Bonsoir, chers auditeurs de Radio Courtoisie, merci de votre fidélité. Vous écoutez Magnificat, l'émission de l'association Marie de Nazareth. Retrouvez toute notre actualité sur notre site mariedenazareth.com. Vous pouvez aussi retrouver tous les podcasts de l'émission depuis le début en accès libre. Alors aujourd'hui, Justina nous parlera du pharisien et du publicain. Qui sont-ils ? Bonjour Justina.
Bonjour.
Puis Patrick Sbalchiro.
Bonjour.
Bonjour Patrick, grande joie de vous avoir de nouveau.
Gentil.
Voilà, Patrick revient nous parler cette fois-ci du Mont Saint-Michel. Que de choses se sont déroulées sur ce petit rocher depuis plus de 2000 ans. Ce qui me réjouit, c'est que nous avons encore de nombreux projets, Patrick. Hein. Nous pourrons parler encore de beaucoup de choses ensemble. Alors Justina, qui sont ces hommes? Leur fonction est parfois synonyme. Je ne dirais quand même pas un peu une insulte, mais traiter quelqu'un de pharisien ou de publicain n'est pas toujours très sympathique, ou du moins les gens ne l'apprécient pas toujours. Pourquoi ? Parlez-nous d'eux.
Très bien. Mais d'abord, je commence par la petite lecture.
Oui.
Donc, en ces temps-là, il dit encore à l'adresse de certains qui se flattaient d'être des justes et n'avaient que mépris pour les autres la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, « Mon Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont rapaces en juste adultère, ou bien encore comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tout ce que j'acquiers. Le publicain, se tenant en distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis !» Je vous le dis, ce dernier descendit chez lui plus justifié que l'autre, car tout homme qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. »
C'est tiré de...
Alors,
du calendrier orthodoxe commun.
Je vais le dire. Donc, bonjour, chers auditeurs. Donc, l'extrait lu aujourd'hui est lu partout chez tous les orthodoxes, peu importe leur calendrier.
D'accord.
Car nous entrons, au même titre que nos amis catholiques romains, dans le cycle liturgique pré-carémique. Hein, j'ai inventé un nouveau mot.
Oui, alors il dit très bien ce qu'il veut dire. Parce que quand on a préparé l'émission, je n'ai pas trouvé le mot pré-carémique, mais je le trouve génial.
Bah oui, parce qu'on a un cycle qui nous prépare au carême. On n'y est pas encore, mais il y a déjà quelque chose qui s'introduit liturgiquement en parlant, et ça depuis des lustres, donc oui. Mais qui dit pré-carémique dit aussi pré-pascal. Et cette année, nous fêterons Pâques le même jour avec vous, avec nos amis catholiques romains et les protestants. Cela arrive environ tous les 4 ans. Il est donc inutile d'y voir en prémisse d'union imminente pour les personnes qui, et à très juste titre, cherchent l'unité de l'Église, ou encore les fondamentalistes orthodoxes ou autres, qui craignent la moindre coïncidence avec le reste du monde chrétien. Il est aussi inutile de chercher dedans les signes de la fin des temps pour eux. C'est cyclique, c'est une affaire de calendrier et des fêtes mobiles. Mais à titre personnel, ça me simplifie le travail de ne pas être en décalage par rapport à nos amis occidentaux. Je me réjouis d'avoir enfin un lundi de Pâques pour enfin me reposer après ce marathon liturgique des offices de carême, de la semaine de la Passion et de la nuit pascale. Et donc cette lecture est traditionnellement une lecture de ce cycle pré-carémique. Et malheureusement, cette parabole est souvent très mal comprise, premièrement à cause des variations nombreuses de la traduction, et j'en parlerai, et deuxièmement à cause de notre perception binaire de la situation décrite dans la parabole. Je sais qu'aujourd'hui, dans toutes les églises orthodoxes, ce texte a été lu et que à 90% des homélies de nos chers pères vont tourner autour du méchant pharisien et de l'humilité du publicain, sans même préciser c'est que étant pharisien et c'est que étant publicain. Eh bien, le pharisien, je rappelle, c'est un adepte dans le courant de judaïsme de cette époque de Jésus, qui est caractérisé par un patriotisme zélé, en respect strict des prescriptions de la loi mosaïque, tout en gardant une marge de manœuvre grâce à la tradition orale. Le publicain étant juif, fonctionnaire d'État romain, donc avant tout, c'est un collabo. C'est la raison pour laquelle les publicains sont méprisés dans la société juive. Il force son peuple à payer l'impôt aux occupants et il vit du malheur de son peuple. Le hic est que, premièrement, aucun des deux n'est parfait. Le publicain cause du tort à son peuple, le pharisien se croit supérieur. Mais les deux ont du bon en eux.
Bien sûr.
Le publicain est capable de reconnaître sa condition de pécheur, mais le pharisien, même s'il s'élève au-dessus des autres, il sait dire merci à Dieu tout de même. et dans une forme certes qui se fait au détriment des autres, mais il n'a rien inventé. Rappelez-vous de la prière matinale d'un homme juif où il remercie Dieu de ne pas avoir été créé païen, esclave ou femme. Et quelque part, le pharisien et le publicain, tous les deux ont besoin de l'un de l'autre. Le publicain a besoin de voir le pharisien rigoriste pour commencer à éprouver le repentir. Le pharisien a besoin du publicain pour commencer à remercier Dieu. Et quand même, savoir remercier Dieu, c'est une grande qualité. Et c'est le moment qui est crucial. Mais le hic, ce sont les traductions. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des traductions qui affirment que seulement le publicain était justifié. Et d'autres traductions qui affirment que les deux ont été justifiés, mais le publicain l'était plus que le pharisien. Et j'ai pris la deuxième option, parce que j'ai comparé avec le texte grec, et j'ai une question, j'ai moi-même pas de réponse. Justifié de,
oui, de quoi?
De quoi? On l'ignore, ce n'est pas écrit. On ne parle pas du péché ancestral, du péché originel, car déjà d'une, c'est une parabole, c'est une fiction, et en plus... le Christ parle lui-même, donc il n'est pas encore mort, il n'est pas encore ressuscité. On ne connaît pas cette histoire
de justification.
En fait, je ne
comprends pas bien le mot « justifier ».
Ben, moi non plus, pour vous dire. Sur le principe, dans le cadre de la loi mosaïque, ils sont tous les deux passés au temple, ils ont prié, ils ont sans doute fait des sacrifices.
Oui.
Normalement, une fois que les sacrifices ont été offerts, ils sont justifiés. Mais justifiés de quoi? Ce n'est pas précisé, c'est une question, et moi-même je vais réfléchir, mais j'invite tout le monde à réfléchir. Mais
écoutez, chers auditeurs, écrivez-nous pour nous donner vos réflexions.
Mais moi j'ai une petite supposition.
Ah.
Peut-être qu'ils sont justifiés de leur dépendance mutuelle. Le publicain a besoin du pharisien pour se repentir, mais une fois qu'il sort du temple, il va reprendre son sale boulot. Le pharisien est moins nuisible à la société, mais il est incapable de regarder le ciel tout simplement et remercier Dieu sans rabaisser l'autre. La première phrase est la clé de la parabole. Celui qui est capable du plus haut sentiment religieux rendre grâce, mais seulement à travers les autres. Il est donc tout aussi faible. Regardons donc le ciel et remercions Dieu sans se regarder dans le miroir des yeux de l'autre.
Merci beaucoup, Justina. Alors, nous allons écouter à présent un extrait de la comédie musicale. Alors, non, je dois dire le spectacle musical Hourra, le blues du pharisien.
Presque 10 ans que je fais ce métier, mais depuis la mort de ce Jésus crucifié, tout est à l'envers, dehors comme dedans. Je suis le pharisien aux abonnés absents. Voilà qu'on m'amène des apôtres à juger, du genre facile à condamner, à fouetter. Hier enfermés au cachot de la prison, sont maintenant dehors, ça tourne vraiment pas rond. Non, non, je n'y comprends rien, j'ai l'air de quoi, moi, le pharisien? Oh non, non, je n'y comprends vraiment rien. En touchant leur manteau, les gens sont comme guéris. Le mien est plus beau, mais personne ne me le dit. J'ai pour moi mon titre, mon savoir et la loi. Mais la foule s'en fiche, elle n'aime que ces gens-là. Non, non, je n'y comprends rien. J'ai l'air de quoi, moi, le pharisien? Oh non, je ne comprends vraiment rien. Faudra peut-être qu'un jour j'écoute ce qu'ils disent, en cachette bien sûr, je vais pas perdre toute ma mise. Mais je risque sinon de terminer tout aigri. Il faut que je mette au clair ce qu'est le Saint-Esprit. Ils annoncent des trucs que je ne comprends pas. Je suis pourtant savant, docteur de la loi. C'est bien la première fois de toute ma vie que je me sens ignorant, finalement si petit. Non, non, je n'y comprends rien. J'ai l'air de quoi, moi, le pharisien? Oh non, non, je n'y comprends vraiment rien. Non, non, je n'y comprends rien. J'ai l'air de quoi, moi, le pharisien? Oh non, non, je n'y comprends vraiment rien.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors, je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes avec Patrick Sbalquero. Vous êtes un auteur prolifique de nombreux ouvrages. Vous êtes déjà venu nous parler des stigmates, des expériences de mort imminente, de miracles, des apparitions de la Vierge Marie. Et vous êtes surtout actuellement auteur pour l'association Marie de Nazareth et Mille Raisons de Croire.
C'est exact.
Voilà, le magazine que nous éditons depuis plus d'un an à présent et que vous pouvez trouver en kiosque ou sur abonnement sur le site Mille Raisons de Croire, mille en chiffres. Mais vous êtes avec nous ce soir pour nous parler de votre livre « Histoire du Mont-Saint-Michel » paru chez Perrin. Alors, de nombreux grands hommes se sont rendus sur le Mont-Saint-Michel, hein, pêle-mêle comme ça, Charlemagne, Saint-Louis, Henri II, roi d'Angleterre, Guillaume le Conquérant, François Ier, qui rencontra Jacques Cartier, j'ai découvert dans votre livre, Philippe le Bel. Mais alors, pourquoi est-ce que les hommes ont voulu dompter ce rocher?
Les hommes ont effectivement voulu dompter ce rocher, qui est... localisé déjà dans un écrin naturel, écologique, exceptionnel. Nous sommes à l'interface entre la Bretagne, si j'ose dire, et la Normandie.
Oh, la Bretagne.
Ah, c'est un vieux dilemme. Le mont appartient-il aux Bretons ou aux Normands?
Aux Bretons.
Voilà, oh, voilà. Et donc...
C'est ma blague préférée parce que je vis en Bretagne, donc je sais très bien que quand dans la même soirée il y a des Bretons et des Normands, il y a trois manières de les fâcher et de s'amuser lors de la soirée. C'est demander qui a inventé le cidre.
Oui.
À qui appartient le Mont-Saint-Michel.
Voilà.
Et le troisième, j'ai oublié, mais je crois que c'était une affaire de crêpes ou des poires. Mais voilà.
Ou de beurre. Donc, un site naturel exceptionnel et une construction humaine, une invention de moines. On ne peut plus rare, et même rarissime, puisque le Mont Saint-Michel, qui n'est pas le seul sanctuaire dédié à l'archange Saint-Michel à travers le monde, mais de par la beauté des bâtiments, de par la configuration générale, c'est un site vraiment universellement célèbre. Eh bien, ce Mont Saint-Michel conjugue en fait deux fonctions. La fonction militaire, tout d'abord, puisque nous sommes situé dans une zone où l'histoire, bien sûr, a connu de multiples invasions, en particulier venant de l'Angleterre.
Oui.
Pas seulement, également des batailles terrestres. Et puis, un site avec une vocation spirituelle exceptionnelle également, puisque les choses sont d'ailleurs assez simples. Nous avons des bâtiments somptueux qui abrite une communauté, puisqu'il s'agit d'un monastère finalement, d'une abbaye, une communauté monastique. Alors, une communauté monastique parmi tant d'autres, mais qui a eu une empreinte, qui a laissé, bien sûr, dans l'histoire, et dans l'histoire culturelle notamment de l'Europe, eh bien, une marque absolument unique.
Il a fallu acheminer des pierres de chaussée.
Il a fallu acheminer des pierres de chaussée, ce qui n'était pas une mince affaire, étant donné les moyens de transport de l'époque. Et c'est une véritable prouesse que la construction de ces bâtiments tels que nous les voyons encore. Alors, il faut faire tout de même attention. Cela, ce n'est pas fait en 10 minutes, bien évidemment. les constructions, eh bien, se succèdent, s'échelonnent tout au long du XIe et XIIe siècle, et pour ainsi dire, d'ailleurs, pour certaines parties de l'abbaye, continue jusqu'à la fin du Moyen-Âge.
Oui. Hein.
C'est un ensemble, c'est un chantier qui dure globalement plus de 4 siècles.
Alors, les moines étaient là-bas pour pouvoir se recueillir. Vous nous dites que c'est un lieu parfait pour les ermites. Il y avait déjà des cultes chtoniens.
À l'origine, avant l'évangélisation
du monde. Donc, déjà là-bas, les gens méditaient.
Voilà, les gens méditaient. Le mont est d'abord occupé par, d'ailleurs, des ermites. Effectivement, oui. Vous avez raison de le souligner. Avant la première, les premiers chanoines, du reste, parce que ce sont les premiers occupants officiels, si l'on peut dire, sont des chanoines, auxquels vont succéder des bénédictins, les bénédictins qui vont rester sur le mont de la fin du Xe siècle jusque dans les années 60 du XXe. Donc, sur une très longue période, un millénaire, pratiquement, occupé par les moines bénédictins, ce qui n'est pas très surprenant puisque le monde monastique au Moyen-Âge est essentiellement, je dis bien, essentiellement bénédictin. Donc, ce n'est pas très surprenant.
Alors, pourquoi Saint-Michel ?
Ah, Saint-Michel, ça c'est une affaire qui mérite peut-être un petit détour, rapide. Le culte rendu à l'archange Saint-Michel au Moyen-Âge est extrêmement populaire. On a du mal à se figurer comment les affaires se passaient, mais c'est un culte qui devance bien évidemment par exemple celui de la Vierge Marie.
Oui.
Hein, il est omniprésent depuis globalement les 6e et 7e siècles à travers la péninsule italienne et jusqu'évidemment dans le monde orthodoxe.
Oui, et je pense savoir pourquoi, pour la bonne et simple raison, dans la tradition juive, l'archange Michel, c'est le protecteur du peuple d'Israël, et c'est à ce moment-là que dans la pensée chrétienne, on parle des chrétiens, du peuple chrétien, en tant que nouvel Israël. Donc je pense que c'est un petit peu une reprise du saint patron protecteur de peuple, et là on sort de ces cases nationales, effectivement, et on parle du protecteur des chrétiens. Je pense que c'est lié à ça.
Tout à fait. Prince de la milice céleste, hein, psychopompe, il pèse les âmes des défunts pour savoir si ils pourront trouver grâce auprès de Dieu, ils iront en paradis ou en enfer, et puis évidemment le combattant du diable. Donc le site est dédié à l'archange Saint-Michel très tôt, et ma foi, il n'a pas changé. Il n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui.
Alors, il trône toujours majestueusement en haut du mont.
Oui, alors il trône majestueusement, mais non pas depuis le Moyen-Âge, mais depuis la fin du XIXe siècle.
Oui, donc c'est beaucoup plus récent.
Alors, on a rénové, on a nettoyé cette magnifique statue de l'archange. Et peut-être que nos auditrices et nos auditeurs ont vu la manière avec laquelle on l'a reposée, évidemment, sur le sommet en hélicoptère. C'est tout à fait incroyable. Incroyable, mais oui, tout à fait. Ce fut un moment assez exceptionnel.
Mais alors, lorsque Saint-Michel a été installé la première fois là-haut, comme c'est quand même très récent, c'était vraiment dans cet esprit cultuel, ou alors il y avait déjà ce côté un peu touristique, ou alors.
Alors, le développement, je dirais tous azimuts, du tourisme
après Napoléon.
Est lié en grande partie, pas seulement, mais est lié en grande partie au développement du chemin de fer.
Okay.
Donc dans la seconde partie du 19e siècle. Il y a, à cette époque, je crois que de mémoire, je cite en 1896 peut-être, évidemment un tourisme régional, même un tourisme, on peut dire, national, mais qui n'a rien à voir évidemment avec les masses que l'on connaît, les masses de touristes.
Actuellement. C'est phénoménal.
Ça n'avait aucun rapport.
Oui,
ça n'a aucun rapport. Et donc, on décide effectivement d'installer, dans le cadre de la rénovation du Mont-Saint-Michel, cette flèche qui est un immense symbole.
Oui. Bien
sûr, un immense symbole.
Alors, en 1150, Guillaume de Saint-Père a repris le récit de Saint-Aubert, hein, sauf qu'il présente, c'était un songe que Saint-Aubert avait eu, et on dit que lui a écrit comme étant une apparition corporelle.
Voilà.
Donc, c'est peut-être ce qui a fait davantage le succès, non? Ou alors...
C'est un point de théologie. Est-ce qu'un
oui,
ange...
mais quand même.
Être spirituel, donc sans corps,
oui.
peut-il agir sur la matière, en l'occurrence occasionner un trou dans le crâne de Saint-Aubert.
Voilà, j'allais y venir. Donc alors, ce crâne, il se trouve toujours ?
Tout à fait. C'est devenu évidemment une relique.
Oui.
Il y a eu des analyses scientifiques qui ont été faites quand même.
Pour savoir d'où venait ce trou.
Voilà.
Alors, juste pour expliquer à nos auditeurs, ce trou.
Alors, oui. Aurait été produit par un doigt de l'ange pour réveiller Saint-Aubert dans son espèce de torpeur naturelle et spirituelle. L'ange, évidemment, étant apparu pour lui demander d'ouvrir de fonder un grand sanctuaire en son honneur. Alors, le fameux trou a été évidemment l'objet d'analyse.
Oui.
Et en réalité, il s'agirait vraisemblablement d'une opération chirurgicale. Alors, évidemment, c'est moins...
Ça fait moins rêver, c'est ça
la portée, là, le mystique est un petit peu moindre, mais néanmoins, hein, c'est un fait historique. Mais l'apparition à Saint-Aubert est restée, bien sûr, à travers les siècles, à travers les siècles, comme, je dirais, l'acte fondateur presque du sanctuaire.
Alors, j'ai quand même lu quelque part, mais peut-être est-ce faux, qu'effectivement, il y aurait opération, il aurait subi une opération, mais suite à un trou dans son crâne.
Oui. Il est très difficile. Il est très difficile de faire de l'histoire de toute façon rétrospective, comme
bien
on dit.
Sûr,
de dresser des tableaux cliniques à plus de 1000 ans après. Une chose est pratiquement certaine, oui, ce n'est pas l'ange qui a occasionné le trou dans la tête de ce pauvre évêque Saint-Aubert.
Oui. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais j'aimerais quand même que nous parlions de ces moines copistes et écrivains qui habitèrent sur le Mont, donc durant tous ces siècles, et qui ont conservé tous ces ouvrages. À l'époque, on appelait ça la Cité des Livres.
La Cité des Livres.
Quel beau nom. J'ai vu qu'il y avait des livres. Alors, je pensais qu'il n'y avait que des livres religieux, mais pas du tout.
Pas du tout. Et cela s'explique très facilement.
Oui.
Un nombre de grands monastères à travers l'Occident et ailleurs, d'ailleurs, servent de phare culturel et intellectuel pendant très, 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 très longtemps, globalement du 9e au 15e siècle.
Oui.
Avec évidemment des variantes locales et régionales. Et les moines, collectionnent, ou du moins possèdent d'immenses bibliothèques qui touchent tous les domaines du savoir.
Oui. Hein,
pratiquement, sciences profanes, sciences dures, nous dirions, arithmétique, astronomie, etc. Médecine, bien sûr, la philosophie, les lettres, les chroniques historiques, et bien sûr, les vies des saints, la géographie, avec des exemplaires, des recueils d'exemplum, même, voilà. Donc, et la bibliothèque municipale d'Avranches.
Voilà, j'allais y venir,
qui a récupéré, on pourrait dire.
Mais il y en a certains qui ont été perdus quand même.
Oui, certains ont été perdus. Actuellement, de mémoire, il y a 203 manuscrits très précieux gérés donc par les responsables de la bibliothèque municipale d'Avranches. Et sur ces 203, il y a vraiment, vraiment des merveilles.
Quel type de merveilles?
Des bibles, notamment, des bibles, des livres liturgiques, des antiphonaires, des missels, de toute première importance. Et puis, je veux dire presque, vraiment, l'une des choses les plus importantes, c'est que les moines ont assimilé et récupéré, recopié, les moines copistes, une grande partie de l'héritage antique. Grec en particulier. Dans le scriptorium du Mont Saint-Michel, maintenant c'est à Avranches, et vous aviez par exemple une trentaine de traités d'Aristote. Ce n'est pas rien quand même. Il y a tout un pôle intellectuel.
Il me semblait, avant de lire votre livre, j'avais une idée un petit peu sur le Mont Saint-Michel. Je me disais que c'était un haut lieu de prière, mais je n'avais pas du tout conscience que c'était vraiment un très...
Un pôle intellectuel et un centre spirituel.
Ah oui.
C'est assez rare quand même.
Oui, oui.
Mais ça existe.
Qui, malgré, malgré les ans, a perduré quand même. Et
oui,
puis,
oui, tout à fait.
Voilà. Alors la prochaine fois, nous baserons un petit peu sur les événements historiques. Mmh. Parce que ça a été tumultueux là-bas, même s'il y a eu des moments... Alors on a l'impression que tout était perdu, et puis à chaque fois de nouveau, voilà, la dévotion y renaît. Donc voilà, je serais très heureuse d'échanger avec vous là-dessus dans 15 jours, parce que la semaine prochaine, nous aurons le père Prévost avec nous. Merci beaucoup Patrick,
merci
Justina, bonne semaine.